pour vous, voici Page après page avec Gisèle, une rencontre intimiste avec un auteur. Bonjour et bienvenue, vous êtes dans Page après page. Je suis aujourd'hui en compagnie de Jean-Paul Copetti. Pour notre plus grand plaisir aujourd'hui, cet officier de police à la retraite, auteur ariégeois, va se confier sur son livre qu'il va nous présenter. Il s'appelle « La confrérie des 12 vigilants ». Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Gisèle.
Vous nous avez choisi une bien belle musique, Simon et Garfunkel, c'est des mythes de musique.
Oui, pourquoi ? Tout à fait. Je trouve qu'ils représentent tout à fait l'esprit de la fin des années 60. Et puis à eux deux, ils avaient une harmonie vocale qui a été rarement égalée. Et la chanson que j'ai choisie, Scarborough Fair, est à mon avis une de leurs plus jolies. C'est une vieille chanson du folklore anglais qu'ils ont repris un peu à leur sauce et qui est magnifique. La voix de Simon Garfunkel là-dessus, avec juste une simple guitare, ça donne quelque chose d'extraordinaire.
C'est vrai, elles étaient harmonieuses ces voix, c'est magnifique.
Tout à fait.
Pas besoin de grande musique derrière. Cet ouvrage que nous allons parcourir aujourd'hui, La confrérie des 12 vigilants, c'est paru d'ailleurs en début 2022. C'est aux éditions Champs-Élysées Deauville, troisième d'une trilogie. C'est une enquête du commandant Clément Chevalier. Est-ce que c'est long à écrire une trilogie ou est-ce que c'est amusant?
En fait, pour être exact, lorsque j'ai publié le premier ouvrage de cette trilogie qui s'appelait « Ténèbres en loge bleue », ça devait être un livre unique, on va dire.
Oui.
Et ce sont mes éditeurs qui m'ont dit « Tiens, c'est pas mal, le personnage principal est sympa, pourquoi pas en faire une suite et voir une trilogie ?» Donc j'ai écrit deux autres romans avec ce personnage principal.
Oui. Et même pour le lecteur, c'est je veux dire, un petit rendez-vous qu'on fait. Et tout, c'est sympathique.
Tout à fait. Retrouver des personnages récurrents, beaucoup de gens me l'ont dit, c'est sympa parce que on a l'impression de les connaître au fur et à mesure des livres.
Exactement.
Et d'ailleurs, petit scoop, je suis en train d'écrire alors peut-être une quatrième aventure de ce personnage qui sortira, je ne sais pas quand, mais je suis en train de l'écrire.
Bon, parfait, parfait. Nous retrouverons avec plaisir ce commandant Clément Chevalier et son équipe. Vous pouvez d'ailleurs nous rappeler qui est-il et son équipe pour rafraîchir un peu la mémoire des auditeurs.
Oui, Clément Chevalier, c'est un commandant de la brigade criminelle de Paris, chef de groupe. Il a la particularité d'être franc-maçon. Une particularité d'ailleurs qui fera une partie importante du premier ouvrage de la trilogie, par la suite aussi, mais surtout dans la première partie. Il est donc à la tête d'un groupe composé, comme le sont les groupes de la brigade criminelle, que je connais puisque c'est là où j'ai travaillé. Mm-hmm. Donc il y a son adjoint qui fait office de procédurier, Arnaud Lapierre, qui est un peu un personnage un peu expérimenté comme son chef. Ensuite, on va retrouver... Romain Vakoski, qui est un petit peu le bellâtre de l'équipe, dont on peut se moquer, mais qui finalement est un brave garçon, qui se moque aussi souvent de sa collègue, Marlène Vito, qui est la petite nouvelle du groupe, qu'il essaie de séduire très maladroitement. Et enfin, il y a un dernier personnage, qui est le petit nouveau qui est arrivé, et qui est celui qui ne sait pas trop ce qu'il doit faire, etc., et qui a des soucis avec son épouse, parce qu'à la brigade criminelle, il y a des horaires très, très extensibles, et que malheureusement pour lui, son épouse ne comprend pas pourquoi il doit s'absenter aussi souvent le soir, le week-end.
Oui. Et en tout cas, ça fait, je veux dire, ça fait un petit peu comme un pot-au-feu, ces livres-là, parce qu'il y a un petit peu de tout dans les personnages, et c'est ça qui fait que c'est agréable à lire. Comme un bouillon est agréable à boire.
Tout à fait, ce sont des personnages plus ou moins dissemblables les uns des autres, mais qui, tous ensemble, arrivent à faire cette espèce d'alchimie.
Voilà.
Qui fait que, j'espère, que les lecteurs les trouvent sympathiques et ont envie de les retrouver dans d'autres aventures.
Ah, mais on a non seulement envie de les retrouver, mais en plus, on a envie de les aider. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti dans ce livre-là, plus encore que dans le deuxième, puisque j'avais envie de dire, celui-là, il va plutôt voir un autre, parce que celui-là, il est plus enclin à te dire quelque chose.
Oui, mais c'est très bien si le lecteur en arrive à se glisser presque comme un personnage supplémentaire dans le roman, c'est que ça marche.
Mm-hmm. Dès la première page, vous nous mettez dans le vif du sujet avec Armand Stenner, qui est la victime. Qui est-il, sans trop en dire non plus, parce qu'il ne faut pas trop...
Alors non, il ne faut pas dire qui il est précisément, parce qu'on le saura en cours de roman.
Oui, c'est vrai.
Et c'est un petit peu une chute du roman, une des chutes du roman.
Oui.
Disons que c'est un homme que l'on retrouve abattu dans une forêt près de Paris, avec deux balles dans la tête, démuni de papier, il ne sera identifié que par la suite.
Bien plus tard.
Et on ne sait pas trop pourquoi il est tué, donc c'est typiquement le genre d'enquête qui est confié par le parquet à la brigade criminelle. Et donc tout démarre avec... ce meurtre mystérieux dans une forêt et le commandant Chevalier, son équipe, chargée de résoudre ce mystère.
Et oui, en effet, chose paradoxale, vous mettez le lecteur sur deux pistes, parce qu'il y a Herbert de Oubliera, dit H2O, qui est ce noble. Et lui aussi, il ne faut pas trop le dévoiler, parce que justement, il a sa petite empreinte quelque part.
Alors, en fait, il y a presque deux enquêtes en parallèle au départ. Il y a ce meurtre dans une forêt... Et assez rapidement, il y a le plasticage de la tombe d'Alan Kardec au cimetière du Père Lachaise à Paris. Alan Kardec qui est le plus ou moins le créateur du spiritisme en France au XIXe siècle et dont on retrouve le monument dans ce cimetière plastiqué. L'enquête est confiée aussi à la brigade criminelle parce qu'on l'assimile à du terrorisme.
Oui.
D'ailleurs, Clément Chevalier n'est pas très content en se disant « bon, c'est pas vraiment pour nous », mais bon, il obéit aux ordres. Et on va s'apercevoir que ces deux faits divers qui semblent n'avoir aucun rapport vont finalement en avoir un assez curieux.
Et oui, parce que moi aussi, j'ai dit « mais quel est le rapport ?» Alors après, j'ai dit « oui, c'est peut-être lui qui a trucidé cette première victime ». Mais bon, la lecture nous montre des fois... se montre bien curieuse. Je suppose que Joseph Perron est un ami à qui vous faites un clin d'œil.
Oui, j'ai appelé le commissaire chef de la brigade criminelle, Joseph Perron. Bon, c'est un petit clin d'œil en effet à Jean-Joseph Perron, qui effectivement est un ami et qui est un fin chroniqueur à Radio Couserans et qui a écrit un ouvrage assez intéressant qui s'intitule « Misère et clameur en Couserans » et qui, sur Internet et sur Facebook, très régulièrement, publie des petites chroniques la vie du Couserans.
Et c'est très sympathique, c'est vrai. Serge Marchand, alias Robert, il faut du temps pour comprendre qui il est. Est-ce que ça s'est voulu ou pas? Ou est-ce que c'est aussi pour laisser le lecteur mener sa propre enquête?
Effectivement, quand je disais qu'il y avait deux enquêtes en parallèle au départ, on pourrait presque dire qu'il y en a trois.
Oui.
Puisque dès le début du livre, on suit un petit peu les agissements curieux de ce personnage qui rencontre le chef de la mafia serbe à Paris.
Oui.
On ne sait pas trop quel est son but, qui ne semble pas être le vrai but que ce qui pourrait apparaître. Et là aussi, ces trois pistes, si on peut dire, vont se réunir au final pour faire éclater la vérité.
Et oui. À un moment, j'ai dit, là, c'est un petit peu trop pour ma petite tête. Donc, j'ai repris les trois enquêtes séparées pour arriver un peu à m'y retrouver. Parce que j'ai dit, mais c'est fou, ce talent que vous avez d'amener le lecteur sur plusieurs pistes. C'est vrai qu'il faut prendre garde de ne pas se perdre.
Mais en fait, c'est un peu une technique littéraire souvent employée en littérature policière, où on fait suivre au lecteur deux, voire trois histoires.
Oui.
On ne peut pas vraiment parler de lui, mais trois histoires en parallèle, qui ne semblent pas avoir de rapport, mais qui au final vont en avoir un. Mais ça, le lecteur le découvre à la fin.
À la fin, exactement. Vous nous faites connaître le monde de la drogue. Zoran Radmilovic en est le patron. Est-ce qu'il vous fallait un personnage comme celui-là face à Clément Chevalier?
Bon, c'est un personnage que j'ai inventé, mais des Zoran, il en existe malheureusement un certain nombre dans les grandes villes, et notamment en région parisienne. Je l'ai fait être serbe, parce que c'est vrai que la mafia serbe existe à Paris. Et le fait de le faire se prénommer Zoran, ça me permettait de dire que les gens l'appellent Monsieur Z par peur de lui. Ce qui n'est pas faux, parce que quand j'étais en fonction, il y avait une fratrie, on peut en parler puisque c'est paru dans tous les journaux, une fratrie, c'était les frères Horneck, qui détenaient le haut du pavé en matière de voyoucratie à Paris, qui étaient des individus assez violents. Et lorsque des malfaiteurs parlaient d'eux, ils disaient les haches. Ils n'osaient même pas dire le nom.
D'accord. Donc vous avez reporté ça sous une autre facette. Vous le disiez tout à l'heure, Roman Vakoski, lui, il est le personnage le plus décontracté que Clément et que ses collègues. Est-ce que ça aussi, c'est la soupape peut-être de l'équipe?
Oui, quelque part, c'est un peu le garçon qui fait pas rire, mais qui est celui qui apporte de la jeunesse, de l'insouciance dans une enquête où, hélas, c'est pas toujours on voit pas toujours le bon côté des choses et des gens.
Oui, et pourtant, il est bien sérieux parce qu'il fait bien son travail.
Oui, mais il fait bien son travail, mais il le fait de manière décontractée lorsqu'il peut faire graisser des dents parfois à son chef ou à ses collègues. Mais au final, il fait ce qu'on lui demande.
Oui. Eva, qui est la médecin légiste, d'ailleurs, vous nous faites aussi, justement, là, ça m'a un peu... J'ai dit, pourquoi est-ce qu'il a... Parce que dans les autres livres, on ne l'a pas vu. Vous nous faites des détails de l'autopsie, de monsieur...
De la première victime.
Voilà, de la première victime. C'est aussi pour nous faire comprendre, au simple lecteur, que nous sommes le quotidien d'un policier.
Oui, et puis je me suis aperçu que dans les romans policiers, l'autopsie était souvent un peu passée sous silence. Alors que là, en deux pages ou trois pages, je donne un petit peu de détails techniques qui permettent de voir un peu ce que c'est qu'une autopsie.
Oui.
Il y avait un auteur de romans policiers, Herbert Lieberman, qui avait écrit il y a une trentaine d'années un gros roman policier qui s'appelait Nécropolis. Et dont le personnage principal n'était pas un policier, mais le médecin-chef de la morgue de New York. Et j'avais trouvé ça assez atypique. Donc, j'ai essayé, mais en seulement quelques pages, de faire un petit peu la même chose.
Mais c'est vrai que j'ai dit, à lire, le lecteur lambda peut trouver ça choquant. Mais quelque part, c'est aussi nous montrer le quotidien que vous devez affronter.
Oui, et puis c'est vrai qu'une autopsie, dans une affaire de meurtre, la présence d'un officier de police judiciaire est obligatoire. Et c'est vrai que bon, c'est pas toujours un spectacle très ragoûtant. Moi, j'en ai fait quelques-unes. Bon, c'était pas vraiment la partie du travail qui me plaisait le plus, surtout lorsqu'il s'agissait de cadavres un peu anciens, si je puis dire.
Oui.
Un cadavre frais, entre guillemets, bon, c'est pas très ragoûtant, mais.
Oui.
Mais quand c'est un cadavre qui a été repêché, qui a passé 15 jours dans la Seine, lestée de plomb, bon, c'est très différent.
Oui, je veux bien vous croire. Je vous crois sur parole. Hein. Clément, on s'en souvient, donc, vous le disiez aussi à la présentation, hein, il est franc-maçon. Et justement, David Morel, de la loge, va l'aider. Parce que la victime serait peut-être ou d'une loge ou d'une secte. Et donc, il est susceptible d'aider Clément Chevalier dans son enquête.
Oui, sans dévoiler l'intrigue, enfin,
oui.
ce passage de l'intrigue.
Oui.
À l'autopsie, il va se passer quelque chose qui va intriguer à la fois le médecin légiste et les policiers. Et Clément Chevalier va demander de l'aide à un vieux frère de sa loge, un vieil érudit, et qui va d'ailleurs le mettre sur une voie qu'il va exploiter dans cette enquête.
Oui. Et ça, vous l'avez imaginé comment, justement, le fait de retrouver ce petit indice et...
Ah, alors ça, c'est de l'imagination, parce que dans la réalité, au cours d'une autopsie, tout ce qu'on peut retrouver, ce sont des projectiles, ce genre de choses. Mais ce qu'on retrouve dans le roman, je ne l'ai jamais vu, encore que, techniquement, c'est possible.
Oui, bien sûr, bien sûr. C'est... Clément, lui, n'a pas d'autre choix que de travailler de concert avec la brigade des stupes. Est-ce que c'est aussi... des messages vers le lecteur ou alors peut-être que je n'ai pas bien compris.
Il est obligé de travailler avec la brigade des stupes parce que au cours de cette enquête, un aspect stupéfiant va se produire. Et un petit peu presque par hasard,
oui.
À l'issue d'une écoute téléphonique, la brigade des stupéfiants va pouvoir aider Clément Chevalier qui, il faut l'avouer, commençait à piétiner un petit peu dans cette enquête.
Oui. C'est l'habitude que vous avez de le faire piétiner ou c'est parce que c'est le besoin de l'écriture ?
Bah, c'est-à-dire que si une enquête se déroule trop facilement, c'est moins intéressant de la suivre sur le plan d'un roman.
C'est vrai.
Donc le fait qu'il piétine un petit peu, ça permet de montrer la difficulté du travail et puis de faire se dire au lecteur « mais qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer pour que Clément Chevalier puisse continuer cette enquête ?»
Ça c'est vrai parce qu'à un moment je dis « mais... il n'arrivera jamais à trouver qui c'est, quoi. Parce qu'il y a tellement de... comment dire... tellement d'embûches. Une fois, c'est H2O qui arrive. Une autre fois, c'est les Serbes. Après, il y a Monsieur Z. Après, il y a... Et jamais il en sort, quoi, le pauvre.
Jusqu'à ce qu'il y ait ce petit rebondissement avec la brigade des stupéfiants.
Tout à fait. Tout à fait. Le médecin aliéniste va s'occuper de H2O, justement. Et là, vous poussez le lecteur à faire fausse route, finalement. Parce que moi, je m'y suis engouffrée dans cette route de ce H2O qui a besoin de soins et d'aide.
Mais en fait, H2O a effectivement besoin de soins et d'aide.
Oui.
Et d'ailleurs, il refuse l'aide qui lui est proposée et se lance dans toute une série d'actions qu'on ne va pas dévoiler ici.
Oui.
Mais en fait, il a vraiment besoin d'aide. Mais comme... la plupart des gens qui sont dans le même cas que lui, ils s'imaginent être sains d'esprit et pensent que ce sont les autres, et notamment les médecins, qui n'ont pas toute leur tête.
Qu'est-ce qui vous a donné cette idée de venir mettre ce H2O là ?
J'ai trouvé que c'était un personnage assez amusant finalement, surtout quand il est confondu et qu'il est dans les bureaux de Clément Chevalier. Il y a une scène assez amusante, je trouve.
Oui.
Et ça fait partie de ces personnages un peu anecdotiques. Que l'on glisse dans un récit pour l'éclaircir un petit peu.
Mmh, d'accord. Et donc, ce garçon H2O est vraiment bien malade. Est-ce qu'il se rend compte que Clément Chevalier se sert de lui ou pas lors de l'interrogatoire ? Parce que finalement, Clément Chevalier aussi se dit que peut-être il y a une aide à aller chercher,
oui.
Ou en tout cas du témoignage.
Je ne suis pas certain qu'il se rende compte qu'il est manipulé. Et je pense plutôt qu'il a l'impression d'aider Clément Chevalier.
Oui, en effet.
Et d'être une sorte d'auxiliaire, de devenir de but en blanc un auxiliaire de la brigade criminelle.
Oui.
Donc ça le valorise, donc il est content.
D'accord. Très bien. Au moment de rentrer au domicile de Serge Marchand, à un moment de ce livre, Clément et son équipe se retrouvent devant une horreur. Le lecteur repart aussi Et en fait, c'est le marionnettiste que vous êtes qui nous obligeait à enquêter. C'est bien ce que vous voulez faire.
Ah, tout à fait, oui.
Et c'est bien fait. Vous croyez que justement ce fait d'imposer au lecteur de mener l'enquête, ça plaît au lecteur ?
On ne va pas dire qu'il mène son enquête, mais dans la mesure où il se pose des questions, ça devient un petit peu interactif. Donc je trouve que c'est un petit plus, plutôt que de lire un récit où, assez plat, même s'il est très bien fait, mais assez plat, où on se contente de lire ce qu'a voulu écrire l'auteur. Alors que là, on se pose des questions et on peut faire des hypothèses. Et on peut s'imaginer inconsciemment faire partie de la brigade criminelle.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est un petit peu ça. L'enquête de voisinage, ça m'a posé des questions et ça m'a permis aussi de faire peut-être un travail aussi. Est-ce qu'il y a de la méfiance par les voisins? Est-ce qu'on a peur de se mêler de ceux qui ne nous regardent pas ou d'avoir des ennuis? Est-ce que c'est un seul truc? Est-ce que c'est un tout?
Alors l'enquête de voisinage, c'est vraiment un des piliers de départ d'une enquête. Si une enquête de voisinage est ratée, on peut passer à côté d'indices phénoménaux. Donc c'est un travail assez vaste qui nécessite souvent pour un groupe d'enquête des renforts. Enfin, tout dépend de l'endroit où ça se passe. Si c'est dans une zone pavillonnaire, effectivement, il n'y a pas besoin de beaucoup de monde. Mais moi, j'ai connu des enquêtes de voisinage sur des meurtres commis en bas d'une cité avec des barres d'immeubles et il fallait voir tout le monde. Parce qu'on ne sait jamais, quelqu'un peut avoir vu quelque chose, entendu quelque chose, avoir envie de le dire à la police, ce qui est encore un autre problème.
Oui.
Et puis l'enquête de voisinage, souvent ça ne se limite pas à un passage ou deux passages pour voir les gens. Moi j'ai connu des enquêtes de voisinage où si un meurtre avait eu lieu dans un chemin un peu isolé le mardi soir à 22h, le mardi soir à 22h de la semaine suivante, on était là parce qu'on se disait toujours, il y a peut-être quelqu'un qui passe là parce que ce sont ses horaires habituels, oui, et qui a peut-être vu quelque chose, mais qu'on ne verra pas les autres jours. Donc c'est assez, c'est un travail assez important et qui souvent peut payer. J'ai connu quelques enquêtes où sur une simple enquête de voisinage, on obtenait des éléments qui nous dirigeaient tout de suite vers le ou l'auteur des faits pour lesquels on enquêtait.
Oui. Et est-ce que vous avez l'impression que justement les gens... Ça ne me regarde pas, je préfère ne pas mettre les doigts dans un engrenage.
Effectivement, c'est une réaction qu'ont un certain nombre de personnes, alors qu'on a beau leur expliquer qu'il existe le témoignage sous X, qui est une pratique qui permet à quelqu'un de témoigner, donc d'avoir un document écrit, puisque la procédure en France est écrite lorsqu'elle part devant une juridiction, les assises ou la correctionnelle, il faut que ça soit écrit. Mais il y a une procédure qui permet de témoigner sous X, c'est-à-dire qu'on aura Monsieur X ou Madame X nous déclare ceci. Alors, comme il faut néanmoins qu'il y ait une existence de ce monsieur X, son identité est prise sur un procès-verbal à part qui est envoyé au parquet, qui le conserve avec un numéro, mais qui n'apparaîtra pas lors du procès.
D'accord.
Ce qui fait que ni les avocats, ni le mis en cause ne saura qui est ce monsieur ou cette madame X. Mais il y a matière, s'il y avait une réclamation, de vérifier que ce monsieur X existe bien, puisque son identité est conservée, mais de manière confidentielle.
D'accord, donc ça peut aider. Et là, les voisins, finalement, ils n'ont pas plus aidé que ça. Ils ont juste vu la voiture et c'est tout.
Oui, mais enfin, ça permet quand même aux policiers de savoir qu'il y avait plusieurs agresseurs.
Oui.
Il y a une description. Donc, tout témoignage, même infime, recoupé avec d'autres témoignages également infimes, peut donner un témoignage intéressant.
Oui. On va faire une petite pause musicale. Qu'avez-vous choisi ? Pourquoi ?
Alors, il y avait Simon Le Garfunkel, dont on a parlé tout à l'heure.
Oui.
Ensuite, je crois qu'il y a Quand les hommes vivront d'amour.
Voilà.
Dans une très belle version canadienne que chantait il y a quelques années Félix Leclerc, Robert Charlebois et un troisième dont le nom m'échappe.
Et Gilles Vigneault.
Gilles Vigneault. Donc, ils ont fait une chanson à trois voix d'un vieux succès canadien de 1956 de Raymond Lévesque, qui est une chanson d'espoir et qui est une chanson maçonnique. Alors, comme le héros de mes romans, Clément Chevalier, est franc-maçon, je me suis dit, tiens, cette chanson qui est magnifique et qui est maçonnique, elle conviendrait tout à fait.
Voilà. Et bien alors, on l'écoute, on se rappelle ses paroles.
Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours, et nous, de ce roman, mon frère.
Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous soyons, où il fallait que nous passions, nous aurons eu la mauvaise partie. Oh, les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, les soldats seront trouvés à nous, mais nous nous serons mon frère. Sagesse ici-bas, c'est le prix. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les boulots. Et nous nous serons
Jean-Paul pour ce moment musical avec Gilles Vigneault, Robert Charlebois et Félix Leclerc. Nous sommes en votre compagnie, Jean-Paul Copetti, pour votre livre « La confrérie des 12 vigilants » paru ce début d'année 2022 aux éditions Champs-Élysées Deauville. Est-ce que c'est difficile d'enquêter quand justement les témoignages de proximité ne donnent rien ?
Comme je l'ai dit, l'enquête de voisinage, c'est un des piliers de départ de l'enquête criminelle, mais il en existe au moins deux autres. Il existe la téléphonie, qui est une mine de renseignements phénoménale. Depuis que les téléphones portables existent, la police, en matière d'enquête sur des faits graves, a fait des pas en avant phénoménaux. Donc il y a la téléphonie et il y a l'ADN. Ça aussi, l'ADN permet de trouver des traces sur des supports qui n'existaient pas avant, ce qui fait que ADN, téléphonie et témoignages, lorsqu'il y en a, bon, ça donne déjà quand même une bonne base de départ.
Oui. Et là, je suppose que Clément reprend de l'espoir à ce
bien
moment-là.
Sûr. Tout à fait, oui. Mm-hmm.
L'enquête que mène Clément va vers un ancien avocat radié des barreaux. Là aussi, face à un personnage qui connaît les lois, ce doit être difficile pour Clément.
Oui, tout à fait. D'autant qu'une perquisition au domicile d'un avocat, normalement, est interdite. Il faut un représentant du Conseil de l'ordre. Sauf que, dans le cas présent, Clément Chevalier fait remarquer à Brandebourg, qui s'offusque de la présence de la police chez lui, qu'il vient d'être radié du barreau et que donc il ne bénéficie plus de cette particularité.
D'accord. Donc il devient un homme lambda.
Tout à fait.
D'accord. Et justement, qui est-il, ce radié des barreaux ?
Alors j'imaginais un personnage assez imbu de lui-même, venant de milieux extrémistes de droite, complotistes, et membre d'un groupe plus ou moins secret qui apparaît au cours de l'enquête et sur lequel, en tout cas au départ, il ne veut rien dire.
Oui. Et justement, ça rejoint un peu là. J'ai pensé vraiment à cet indice qu'on avait trouvé sur ce cadavre.
Et oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est grâce à cet indice et aux indications que le vieux maître ami de Clément Chevalier lui donne, c'est grâce à ces deux choses-là qu'il se retrouve au domicile de cet avocat radié du barreau.
En effet. Là, dans ce livre, on parle beaucoup de la drogue aussi. Alors la drogue, on le sait, ça tue à plus ou moins long terme. Et là, Clément doit faire face à du produit frelaté.
Et oui, tout à fait. Il se passe quelque chose dans le milieu des trafiquants de drogue et surtout des consommateurs qui fait que de nombreux drogués en viennent à décéder parce qu'on leur a fourni une marchandise qui n'était pas du tout à la hauteur.
Mmh. Et j'avoue que je ne savais pas, enfin, je ne m'étais peut-être pas posé les bonnes questions, et, ou en tout cas, je ne les avais pas soufflées à Clément. Mais pour le faire repartir, comment réagir dans un impasse comme ça ?
Eh bien, c'est là où souvent, on a besoin d'un petit coup de pouce du destin, qu'en l'occurrence, on va avoir grâce à une écoute téléphonique qui n'avait rien à voir oui. et qui est gérée par la brigade des stupéfiants.
En effet, c'est vrai. Qui est Monsieur Z ? On en a parlé tout à l'heure, mais c'est un personnage, comment dire, à part.
Oui, alors c'est un Serbe qui faisait partie de la mafia serbe lorsqu'il vivait en Serbie, qui s'est installé depuis une douzaine d'années en France et qui s'est établi au sein du milieu des trafiquants de drogue par la violence, en récupérant des marchés par la force, en n'hésitant pas à éliminer physiquement ses concurrents, et qui bénéficie dans ce roman d'une réputation de quelqu'un sur les pieds duquel il ne faut pas marcher.
Oui. Et puis alors, il sait bien s'entourer, ce monsieur Z.
Oui, il est entouré d'une équipe qui l'a ramené de Serbie, d'individus à ses ordres et particulièrement violents.
Mmh. Clément en est sûr, les pistes des Serbes est sûre. Là, il est certain de tenir une bonne piste. Est-ce un cas ou est-ce qu'il faut tout bien penser avant d'agir ? Parce que c'est difficile contre ce monsieur Z.
Oui, c'est difficile, d'autant que, là encore, sans dévoiler l'intrigue du roman, il faut intervenir rapidement pour une raison bien précise.
Eh oui, oui. Tout à fait. Est-ce que c'est aussi une habitude chez Clément, justement, de pouvoir agir tout en mettant de la confiance, mais en mettant de la sécurité également ?
Oui, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsqu'il y a des opérations un peu chaudes, comme on dit, dans ce genre d'enquête, eh bien, on fait appel à un service spécialisé, en l'occurrence la BRI, la Brigade de Recherche d'Intervention, qui est composée de fonctionnaires spécialement entraînés et équipés pour assister les services d'enquête qui, eux, sont plus des enquêteurs que des gens de terrain, on va dire. Je veux dire, Clément Chevalier, si je devais grossir le trait, il est plus proche de Colombo que de Sarkey Hutch.
Oui.
Alors que la BRI, c'est plutôt le contraire.
Oui. Clément a-t-il eu peur à un moment, ce jour-là, de mettre son équipe en danger ?
Ah oui, tout à fait, mais ça, je crois que c'est comme dans la réalité. Lorsqu'une opération de ce type va se déclencher, on croise les doigts en se disant bah, pourvu que tout se passe bien.
Oui. Que vous ont dit les gens qui ont lu cette troisième trilogie, ce dernier de cette trilogie ?
La plupart m'ont dit que c'était pas mal fait,
oui.
Ce qui m'a plutôt fait plaisir. Et j'ai eu effectivement une ou deux personnes qui m'ont dit que ça serait bien si la trilogie ne s'arrêtait pas et se poursuivait. C'est pour ça que, alors je n'avais pas encore parlé à mon éditeur,
oui.
Mais je me suis lancé dans l'écriture d'une quatrième aventure de Clément Chevalier qui pourrait s'intituler « La maison du sang et des larmes ». Alors pourquoi ce titre ? C'est parce que quand j'étais à la Crime, il y a une vingtaine d'années, une journaliste de Libération était venue faire un long article sur la brigade criminelle et l'avait intitulé « La maison du sang et des larmes ». Et j'avais trouvé que c'était pas mal comme titre. Donc il y aura peut-être une suite à cette trilogie. Bon, parce que c'est pas parce que c'est une trilogie que le personnage doit disparaître.
Oui.
On en a l'exemple en littérature policière avec Kerr, qui a écrit la trilogie berlinoise, qui raconte des enquêtes d'un policier allemand au moment de l'arrivée d'Hitler et pendant la guerre. C'était trois romans qui ont bien marché, qui ont été republiés sous le titre « La trilogie berlinoise », ce qui n'a pas empêché l'auteur de republier encore quatre ou cinq aventures par la suite avec ce même personnage.
Mm-hmm. C'est la fin donc de la trilogie. Est-ce que vous avez eu du mal à le laisser à Clément, bien que vous venez de dire que vous alliez peut-être le faire vivre encore un peu ?
Ben oui, c'est-à-dire que je me suis attaché à ce personnage.
Et oui, je comprends.
Alors qu'au départ, il ne devait faire l'objet que d'un seul roman.
Oui.
Et puis, je le trouve sympathique. Et puis, je trouve que son équipe sympa également, avec des personnalités différentes.
C'est vrai.
Avec souvent de l'humour entre les différents personnages. Bon, là, il n'a plus la petite araignée qu'il avait dans son bureau dans le roman précédent. Mais bon.
Mais on sait qu'une araignée, ça ne vit pas longtemps.
Et oui, c'est ça, oui.
Comment vous vous sentez, vous, quand vous arrivez au terme de autant de pages et que vous voyez que votre héros peut vivre sans vous? Est-ce que vous l'acceptez, ça, ou est-ce que ça vous embête un peu de le laisser?
Bah, c'est sûr qu'à partir du moment où le livre est paré, il se retrouve dans les mains des gens et donc il a sa propre vie. Mais bon, bah c'est la... je dirais que c'est la vie, c'est un peu comme quand on a des enfants. Oui. À un moment donné, bah, ils quittent le nid, voilà, mais ils existent toujours, mais oh, ils ont quitté le nid.
Est-ce qu'ils reviennent des fois, vous dire, pourrait que peut-être faire une autre aventure tous les deux?
Bah, c'est peut-être ce qui est arrivé inconsciemment, puisque, comme je vous disais, je suis en train de terminer un quatrième livre avec ce personnage et son équipe.
D'accord, bien. Alors, on ne va pas, bien sûr, dévoiler l'épilogue, hein, parce que ça, on va le laisser découvrir... à nos auditeurs, à qui je conseille justement de devenir des lecteurs de Jean-Paul Copéty et de cette confrérie des 12 vigilants, parce que c'est une belle enquête, je trouve, et puis c'est sympathique, c'est bien fait, c'est pas glauque comme écriture non plus, même quand vous faites la description de l'autopsie, il y a une certaine retenue chez vous.
Oui, puis je la décris plus sur le plan technique que sur le...
Tout à fait.
Que si je voulais faire du gore ou du glauque, comme vous dites. Non, je décris ce que c'est qu'une autopsie.
Oui, mais vous ne mettez pas... Ah, c'est... Il y a des fois, c'est dur, quoi. Mais là, non. Là, j'ai lu avec... Pas avec plaisir, parce qu'on sait que c'est une autopsie. Mais enfin, sans non plus être dégoûté, quoi. C'est sympathique, hein.
Oui,
bah,
c'était le but recherché.
Entre parenthèses, on va dire. Donc, La confrérie des 12 vigilants, parue ce début de 2022 aux éditions Champs-Élysées. Nous allons le laisser découvrir à nos auditeurs, donc ils vont devenir vos lecteurs. Et d'ailleurs, je leur recommande de la lire, cette intrigue policière, elle est sympathique. Merci Jean-Paul de nous avoir préparé et concocté encore une fois une très belle enquête avec... cette fermeture de trilogie qui peut-être deviendra un petit peu plus grande, pourquoi pas. Et puis aussi, c'est surtout pour nous avoir ouvert les portes d'un commissariat, parce que finalement, des gens lambda ne connaissent pas ce qui se passe derrière ces portes d'entrée.
Ouais, oui, bah vous savez, j'ai passé 36 ans, c'est amusant, 36 ans ou 36, ça me permet de le revisiter à travers mes livres.
Oui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit message, parce que vous avez parlé de la drogue frelatée, est-ce que ce n'est pas aussi quelque part un message de votre part, parce que vous êtes bien placé pour savoir, pour dire à ceux qui usent de ce produit, attention?
Oui, tout à fait. Il ne faut surtout pas mettre le doigt dans l'engrenage de stupéfiants. Et d'autant plus qu'en ce moment, depuis quelques années, on va dire, il y a le phénomène du crack qui est arrivé. Et alors là, c'est la pire des choses qui puisse arriver. Parce que, à la limite, fumer un pétard, bon, ce n'est pas très grave. Et même prendre de l'héroïne, de la cocaïne, on peut s'en sortir. Bon, il y a des traitements, on peut s'en sortir. Alors que quand on commence à prendre du crack, on est accro tout de suite et on ne peut quasiment jamais s'en sortir. Et puis, ça cause des dégâts phénoménaux, le crack.
Mm-hmm. D'accord. Eh oui, c'est vraiment un gros problème sociétal. Merci beaucoup Jean-Paul de nous avoir donc encore une fois donné un très beau roman de ce monde. Donc même si c'est une fiction, parce que ça reste quand même toujours fictif.
Oui, c'est une fiction, mais dans tous mes romans, j'essaie de ne pas dire de bêtises.
Oui.
Et même si ça peut paraître un peu tarabiscoté ce que je raconte, parce qu'il faut attirer l'attention du lecteur.
Oui.
Tout serait possible. Rien n'est inventé dans le sens où il n'y a pas de poursuite sur les toits du métro, de bagarre au sommet de la tour Eiffel, de combat au couteau dans les égouts. Enfin,
oui.
Ce sont des enquêtes fictives, mais qui auraient très bien pu se réaliser.
Tout à fait. La fin, finalement, elle est logique.
Oui, tout à fait. La fin est logique. Et puis, on retrouve une petite séance d'apaisement lorsque... Clément Chevalier retrouve son vieux maître,
mmh.
et que ça se termine.
Justement parce que son vieux maître l'a un petit peu canalisé, mais en même temps, ils sont très copains et ils sont très respectueux l'un de l'autre.
Tout à fait.
Et ça, c'est quelque chose qui fait du bien à la fin, en fait.
Tout à fait, c'est une petite note de lumière dans un monde assez noir, celui des meurtres.
Tout à fait, tout à fait. Vous avez choisi une musique qui finit cette page après page, donc c'est les Rolling Stones.
Oui, alors j'ai choisi les Rolling Stones et Honky Tonk Woman. Alors pourquoi ? Parce que bon, d'abord j'aime beaucoup les Rolling Stones, je trouve qu'ils ont une longévité qui est exceptionnelle, et Honky Tonk Woman, c'est à mon avis un de leurs meilleurs morceaux.
Mm-hmm. Ben merci de nous le faire partager. Vous nous l'avez dit, vous avez un autre livre en cours. Est-ce qu'il va être fini bientôt ?
Très, très prochainement, il sera terminé. Après, il y aura une relecture.
Oui.
Et je pense que ça va être une enquête aussi très intéressante.
Pensez-vous que vos éditeurs ou votre éditeur va peut-être, accepter cette suite ?
Je pense que c'est vraisemblable.
D'accord. Donc voilà, on va attendre encore un peu pour pouvoir lire votre prochain, qui, m'avez-vous dit, s'appellera ?
Qui devrait s'appeler La Maison du Sang et des Larmes.
Voilà. Et puis, vous allez bien sûr faire des dédicaces, non seulement pour cette confrérie, mais pour toute la trilogie.
Oui, tout à fait. Alors, je serai samedi 9 juillet de 10h à midi à la librairie La Mousson à Saint-Girons, pour dédicacer mon dernier livre et les précédents. Donc, si des personnes sont intéressées par les aventures du commandant Clément Chevalier, je leur donne rendez-vous dans cette très belle librairie à Saint-Girons.
Et pour ma part, je les incite à lire cette trilogie parce que c'est bien ficelé, c'est bien fait, c'est du vrai, c'est du concret et c'est apaisant. Ce n'est pas du thriller très ensanglanté, non, c'est sympathique. Et puis Clément Chevalier est gentil, quoi.
Oui, c'est un... Ben, vous savez, finalement, la plupart des policiers sont des gentils, contrairement à ce que beaucoup de gens racontent.
Eh bien, merci beaucoup. Donc,
merci à vous.
Nous allons écouter cette musique. Je vous laisse le mot de la fin. À bientôt.
Écoutez, je vous remercie. Je remercie Radio Galaxy. Et puis, eh bien, à bientôt également.
Page après page, une rencontre intimiste avec un auteur.